Branché sur l'actualité de la Mauricie.
Vous écoutez
Que la Mauricie se lève avec
Marc-André Pelletier.
Que la Mauricie se lève.
À 8h12, bon matin François.
Bonjour mon cher.
François Blanchet qu'on retrouve tous les jours vers 8h10 pour parler de politique. Et je suis content ce matin parce que l'un des sujets qu'on va aborder, j'en ai parlé récemment avec des amis et la conjointe qui me disait « Ben oui, Legault a quand même, il est allé de la parité et semble-t-il que c'est important pour lui, mais quand tu grattes plus loin, tu te rends compte que c'est surtout en façade. »
En fait, il y a à peu près 3 semaines, j'avais publié dans Le Nouvelliste une chronique qui portait sur ce thème-là, puis qui disait à bien des égards à peu près la même affaire. Monsieur Legault a atteint, et c'est tout à fait salutaire, la parité homme-femme à l'intérieur de son conseil des ministres. Puis là, un conseil des ministres équilibré à bien des égards. Cependant, il est exact, pour rapport que lui est un homme, que son leader parlementaire, qui est, Simon-Jeanin Barrette, pardon, est un homme, que son président de caucus est un homme, que son whip est un homme, et que les 3 ministères à caractère économique sont détenus par des hommes, messieurs Girard, Fitzgibbon et monsieur Dubé, que le ministère de l'Éducation est détenu par un homme, que le ministère également très économique des ressources naturelles et de l'énergie est détenu par un homme. Bref, le beef du Conseil des ministres de François Legault est encore occupé essentiellement par des hommes, avec des exceptions notables. Madame McCann à la santé, quand même, c'est pas rien. Et évidemment, Sonia Lebel, c'est pas rien. Je pense toutefois que si Monsieur Legault avait eu plein d'options, il y aurait eu un Conseil des ministres encore plus équilibré. Il y a un symbole dans la volonté d'avoir un conseil des ministres paritaire, un symbole important que M. Legault devait absolument respecter. Mais dans tout ce qu'il y a devant lui comme option, si la tradition depuis des dizaines et une espèce de toujours qui remonte à Abraham, que ce soit des hommes surtout qui fassent de la politique, ça prend du temps avant que tu aies autant de choix dans les deux groupes, tu comprends?
Ouais.
Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, il faut absolument le faire. Il faut que les femmes qui ont un intérêt pour la chose publique se disent qu'elles y sont autant bienvenues, reconnues, destinées à des promotions et à occuper des postes importants que des hommes. Dans l'intervalle, parfois, tu dois faire des choix. Tu dois faire des choix, puis tu dis « OK, là, je vais avoir un conseil des ministres paritaire. » Et l'étape suivante, c'est d'entourer ces ministres-là, parce que je me rappelle d'avoir eu des débats avec mon estimée collègue, Mme James, qui disait « Non, c'est pas le cabinet du premier ministre qui choisit les chefs de cabinet. » Ben oui. Les chefs de cabinet sont des personnes extrêmement importantes, dont on pense tous qu'ils sont sous l'autorité du ministre. Dans les faits, plus ou moins. Le chef de cabinet est en général, surtout pour des néophytes, nommé par le cabinet du premier ministre. Et le patron du chef de cabinet n'est pas le ministre, c'est le chef de cabinet du premier ministre.
Ouais.
Qui est également un homme, bien sûr. Le secrétaire général du gouvernement est un homme, bien sûr. Et donc, les 2/3 des directeurs de cabinet, les chefs de cabinet, sont des hommes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, depuis des dizaines et des dizaines d'années et depuis Moïse, ce sont d'abord et surtout des hommes qui font de la politique. Monsieur Legault avait donc le dilemme de dire, écoutez, j'ai un conseil des ministres gravement inexpérimenté. La seule autre personne, à part Marguerite Blais et lui-même qui avait déjà été ministre, n'a pas été retenu, c'est Monsieur Simard à Québec. Donc, il faut au moins encadrer ces ministres-là de gens qui ont de l'expérience. Puis là, tu te retrouves avec une gang de gars, dont la moitié commence à avoir une petite bédaine, là. Et tu dois te former un conseil, choisir une gang de chefs de cabinet à partir de ces gens-là. Fait qu'à un moment donné, comme on dit en russe, lâchez-y la grappe. Je pense que M. Legault n'a aucun... Tu sais, il y a bien des défauts, là, M. Legault. Je pense pas qu'il est sexiste. Je pense que s'il a l'occasion d'avoir une parité, il va le faire. Je pense que on doit arriver au point où sans loi, sans règles, sans obligations, sans contraintes, sans coup de fouette, sans pendaison sur la place publique, naturellement, il y aura à peu près toujours autant de femmes que d'hommes. Ce qui veut dire que dans certains cas, il y aura plus de femmes que d'hommes. Parce que ça sera pas un critère, puis parce qu'il y a autant des deux dans la société. On va arriver à des situations où il y a plus de l'un que de l'autre des fois, puis un petit peu plus de l'autre bord la fois d'après. Fait que l'effort de M. Legault est louable. Le résultat est un petit peu décevant sur le type de ministères qui ont été donnés aux uns ou aux autres. Le résultat est un petit peu décevant sur qui sont les chefs de cabinet, mais je pense qu'il a déjà établi un standard intéressant. Et je nous rappellerai que dans la campagne électorale, On insistait tout le monde pour la parité dans les candidatures, présumant que ça menait à la parité dans la formation d'un gouvernement. Il n'y a pas grand monde qui a pété sa coche sur les chefs de cabinet, là.
Ouais.
Fait qu'on, t'sais, c'est correct, l'exercice est intéressant, à titre informatif. Et c'est ce que Mme Richer fait, puis c'est de l'information qui nous est donnée. Moi, je trouve ça très intéressant, mais je ne suis pas disposé, j'aurai bien d'autres occasions, mais je ne suis pas disposé à jeter la pierre au gouvernement Legault sur ça.
Oui, et la réflexion se pose toujours, hein, est-ce qu'on nomme à tout prix des candidats ou candidates en fonction d'avoir la parité? Sinon, il y a toujours l'excellent slogan, ou en tout cas la maxime qui revient, à compétence égale et tout le reste. Mais c'est une réflexion à avoir, effectivement.
Si on fait pas l'effort de plus.
Exactement.
Si on fait pas l'effort de plus, on n'y arrivera pas.
C'est très bon point.
Si la tendance naturelle est bien établie, si on fait pas l'effort de plus, c'est comme prétendre que juste avoir informé les gens que ça serait le fun qu'on arrête de réchauffer le climat, ça va se faire tout seul. Ça se fera pas tout seul. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir tordre un petit peu des choix et des règles pour arriver à ce que la parité soit naturelle. J'aime pas mal mieux faire des efforts de ce type-là que de voir cette hypothèse qui circule, qui n'est pas si mauvaise nécessairement, mais dire, faudrait avoir une loi. T'sais, avoir une loi qui oblige à. Puis à un moment donné, ben tu veux faire quelque chose dans la vie, tu veux te présenter en politique, puis là, tu vas à la chambre de bain, tu ressors, puis tu dis, j'irai pas, j'ai un morceau de trop.
Ouais.
Tu sais, faut pas arriver là non plus, là.
C'est ça. Puis on a tous en tête quelques candidats, candidates qu'on ne voudrait pas voir là à cause d'une loi.
Mais nonobstant ça, moi, je reviens toujours à la même affaire. Je veux que l'effort soit fait.
Ouais.
Je veux qu'il y ait la parité. Je veux qu'on comprenne que c'est ça qui sert tout le monde. Je veux qu'on comprenne que on n'a pas d'affaire à gaspiller le talent, l'intelligence, la sensibilité de la moitié de la population sous prétexte qu'ils sont d'un sexe ou d'un autre.
On est d'accord là-dessus, et François. Maintenant, Netflix et le Québec, est-ce que les promesses sont tenues?
Ben, c'est assez amusant. C'est un deuxième texte qui était dans le Nouvelliste ce matin. Le gouvernement Trudeau, on se rappelle, on se remet dedans un peu parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Le gouvernement Trudeau donne un congé de taxes aux gens qui s'abonnent à Netflix directement parce qu'il y a d'autres canaux par lesquels tu trouves à payer tes taxes.
Mm-hmm.
Pas un congé de taxes à Netflix. Un congé de taxes à ceux qui achètent le produit Netflix. Parce que c'est pas Netflix qui paye la taxe. Puis si je vais m'acheter des souliers au magasin, c'est moi qui paye la taxe, c'est pas le magasin de souliers. Donc, il donne un congé de taxe à ceux qui consomment le produit Netflix. Il ne donne pas de congé de taxe à celui qui consomme le produit Cogeco. Cogeco est une entreprise de télécommunications qui offre des contenus exceptionnels et un animateur matinal de fou, malade, fini, capoté, mais aussi une compagnie de télécommunications qui propose des contenus, qui propose un véhicule de contenu. Et quelqu'un qui est abonné, ma mère est abonnée à Cogeco, chez eux, là, elle paye des taxes.
Absolument.
Bon. Donc, sous prétexte de pas ajouter des taxes à la classe moyenne, le gouvernement exclut un produit de la perception des taxes. Et ce produit-là, cette compagnie-là, qui est quand même une multinationale puissante comme c'est pas permis, dit, écoutez, on va investir 500 millions au Canada en production de contenu culturel. Dans la vraie vie, moi-même, je suis un important consommateur de produits de Netflix, parce que j'aime ça, ces séries-là.
Ouais.
Il reste que Netflix offre des produits à l'échelle planétaire.
Ah, c'est ça.
Et le produit qui passe le mieux à l'échelle planétaire, il est rarement en mandarin, en catalan ou en inuktitut. Il va être préférablement en anglais.
Ouais.
Ça ne l'exclut pas. Il y a eu des séries sur Netflix qui ont été faites dans des communautés, dans des petits pays, puis qui ont quand même été diffusées, mais ils ont en général été faites d'abord en anglais. Ce qui suggérerait, et il y a des cas d'entreprises québécoises qui ont participé à des productions qui ont été diffusées sur Netflix, ça suggérerait que pour avoir accès de façon plus facile à la plateforme Netflix, il faudrait que les producteurs de contenu, humour, cinéma, télésérie, produisent en anglais.
Ouais.
Et là, on peut-tu commencer à se poser des questions sur notre capacité en se transformant en carpette, là?
Ben non, mais là, c'est ça, effectivement.
Là, il y a un problème, et donc, il y a très peu d'argent de Netflix qui est, en effet, atterri au Québec. Et là, on nous dit, oui, mais on est correct au Québec, il n'y en a pas de problème. Puis correct au Canada, il n'y a pas de problème. Il y a l'exception culturelle dans l'accord États-Unis, Mexique, Canada, tout va bien. La culture est protégée. Et je parlais à Pierre Nantel, député du NPD le nom du comté ne me revient pas, mais ça arrive dans Longueuil.
Oui.
Et Pierre Nantel, qui est un expert de ça, je le connais depuis 30 ans, je l'ai connu, il travaillait dans une maison de disques et moi, je présentais un futur chanteur de rock. Et on se connaît donc depuis ce temps-là, puis il dit, un instant, il y a ce qu'ils appellent la clause de représailles. C'est-à-dire que si le Canada protège trop au goût des Donald Trump de ce monde, ces industries culturelles. Ils vont pénaliser d'autres produits canadiens aux États-Unis pour exercer des représailles. Première affaire. Deuxième affaire, dans le fameux partenariat transpacifique, fort bien négocié, je pense, par notre ami François-Philippe Champagne, il n'y a pas d'exception culturelle. La culture est un produit comme les autres. Sauf que le Canada a négocié avec chacun des signataires, parce qu'il y a 6000 pages dans cet accord-là. Mm-hmm. Avec chacun des signataires, le Canada a signé une lettre qui dit « Oui, oui, c'est correct, l'exception culturelle, il n'y a pas de problème. » Parce que dans la vraie vie, là, ben, l'Indonésie, les Philippines, ils disent « La culture canadienne, québécoise, ils ne se lèvent pas le matin pour s'en occuper. »
Non, non, mettons.
Mais si les États-Unis, comme Donald Trump, en a manifesté un certain intérêt, ça peut changer 4 fois dans la journée, si les États-Unis disent « Oui, mais nous autres, on va se joindre au partenariat transpacifique. » Ben, François-Philippe, il va appeler, il va dire « Hey, Donald, tu me signes-tu une lettre d'exception culturelle pour le Canada? » Bonne chance. Et dans ce cas-là, l'exception culturelle, par le biais du partenariat transpacifique, va tomber. Il y a des choses de même qu'on regarde pas passer, puis on pense que c'est acquis, la protection de notre culture, puis il n'y en a pas de problème. Ben, ce n'est pas simple comme ça. Et le gouvernement Trudeau, dans le cas de Netflix, a fait une erreur historique très, très, très importante, puis une erreur grave. Et on constate aujourd'hui que le Québec, qui lui n'est pas un État ou une juridiction ou un territoire ou une culture anglo-saxonne, ce qui est un grave péché, ben, il va avoir de la misère à avoir accès à de l'argent de ce fameux 500 millions qui était déjà dans son principe même inacceptable.
Ah, qu'on se fait avoir sur celle-là, moi, je l'ai déjà très mal.
Ça nous arrive de se faire avoir parce qu'on s'est tellement fait dire qu'il fallait arrêter de s'ostiner avec toutes ces niaiseries-là que finalement, on a dit, hey, c'est vrai, on doit s'ostiner pour des niaiseries. Puis tranquillement, pas vite, on recommence à nous manger à laine sur le dos.
Merci François, on se reparle demain.
Un grand plaisir mon cher, on se parle demain en effet.
Bye bye, à demain.
Bye bye.
Bonne journée à toi, 8h10 tous les jours, la chronique d'Yves-François Blanchet.